Bon, par quoi je commence? Je ne crois pas que j'ai à expliquer les précautions élémentaires que nous prenons. Elles sont évidentes. Brouillage de nos données, de nos identités, etc. L'organisation de notre disparition. La disparition, celle qu'ils ne décident pas, c'est ce qui les contrarie le plus. Nous avons tous disparu. Sauf qu'ils savent que nous sommes là, dans une sorte d'envers du monde. La planète est petite. On s'en est aperçu rapidement. Je veux dire, depuis les voyages de Christophe Colomb et Magellan et Cook et bim, bam, boum. Colomb, Magellan et Cook étaient des explorateurs. Et depuis qu'on a plongé dans les abysses, et la Lune, et Mars, et les satellites de Jupiter et bientôt les planètes habitables, on n'a plus tellement où se cacher nulle part sur la Terre. C'est une évidence. Le bizarre est qu'on y parvient pourtant. C'est très inconfortable. Il faut renoncer à ce à quoi ont droit la plupart des animaux domestiques, du fourrage sec, de la nourriture facile, des soins. Si on accepte d'avoir les pieds constamment mouillés, de ne plus jamais boire un café et d'oublier les douches chaudes, je ne parle que de ce qui me manque le plus, on parvient à se cacher, à disparaître, tant qu'il y a des forêts. J'écris pour comprendre et témoigner. Sur un cahier, ça va de soi. Avec un crayon en bois à mine de graphite, ça se trouve encore. Rien de connectable.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Nous le savons, la planète ne pourra bientôt plus nourrir ses milliards d'habitants, d'autant que les 1% de super-riches ne laissent que des bribes aux 99% restants. La sécheresse et le manque d'eau potable provoqueront les prochaines guerres, avant même que celle née du fanatisme religieux ait cessé. La misère poussera des millions de migrants sur les routes, tandis que les maladies que l'on croyait éradiquées feront à nouveau des ravages. Et pour maintenir l'ordre, les gouvernements accentueront la surveillance des citoyens et la répression des contestataires. Est-ce là le monde dans lequel nous allons devoir faire vivre nos enfants? Ray Bradbury et George Orwell n'avaient jusqu'ici jamais été considérés comme des prophètes. Fahrenheit 451 et 1984 semblaient être de simples paraboles de féroces dystopies politiques impossibles à prendre au pied de la lettre. Jusqu'ici. Mais la littérature, la bonne, nous tend parfois le miroir de sorcière dans lequel notre avenir se dessine. Le dernier livre de Marie Dariussecq, Notre vie dans les forêts, paru chez POL, évoque un monde qui ressemble déjà au nôtre, hyper connecté, où les humains sans travail, pourvus de clones, réservoirs d'organes, tentent de survivre sous un ciel pollué. L'ironie et la rébellion y sont leurs dernières armes, les nôtres aussi. Bonsoir Marie Dariussecq.
Bonsoir Kathleen Eva.
Est-ce que vous avez toujours été une grande lectrice de science-fiction, de romans d'anticipation?
Oui, surtout à l'adolescence. Mais je n'ai jamais vraiment arrêté d'aller chercher de la science-fiction, sans jamais d'ailleurs faire la différence avec les autres livres. Stanislas Lem, Solaris par exemple, c'est un immense roman que j'ai lu et relu récemment à côté d'autres livres qui n'était pas nécessairement situé dans un futur ou sur une autre planète. C'est la qualité des livres qui m'intéresse. J'en ai beaucoup lu, et j'ai beaucoup lu Bradbury, et en ce moment je lis Ballard, par exemple, que je n'avais jamais vraiment lu. Alors lui, sur la société de surveillance, il y va. Et puis les films, bien sûr. Un film du futur, ça m'intéresse toujours.
On pense beaucoup justement à un film comme Soleil Vert, par exemple, de Richard Fleischer, quand on lit votre livre. Mais en fait, si on se souvient bien, depuis l'origine, il y a eu chez vous ces tentations. On sait que vous aimez les fantômes, mais même les clones. En 97, il y a eu une nouvelle que vous aviez écrite qui parlait déjà de ce sujet. Le clone s'appelait déjà Marie.
Oui.
Et en fait, c'est quelque chose qui était déjà au fond de votre mémoire d'écrivain, comme s'il fallait aller plus loin. Est-ce que c'est le déclic de cette société dans laquelle on vit aujourd'hui? Il n'y a pas tellement de différence entre celle que vous décrivez, que vous ne datez pas d'ailleurs, mais qui est juste un tout petit pas de plus dans l'horreur, dans le futur, par rapport à la nôtre?
C'est un tout petit pas de plus dans le futur, comme Truisme était aussi mon premier roman, un tout petit pas de plus dans le futur. C'est peut-être dans 30, 40 ans. Et puis d'autres de mes romans, comme un roman qui se passait au pôle sud, White, où il y avait des hologrammes. Enfin, ce qui m'amuse, parce que j'espère aussi que ce sont des romans amusants, c'est de pousser un tout petit peu le bouchon, d'exagérer, mais à peine, et de voir ce que ça pourrait donner, nos inventions. Et effectivement, cette nouvelle que j'avais écrite exactement au même moment où j'écrivais mon premier roman, qui s'appelait « Quand je me sens très fatiguée le soir », c'était l'histoire, très courte, d'une femme qui allait veiller une étrange personne endormie qui lui ressemblait trait pour trait, qui s'appelait Marie. Et en fait, j'ai donné un autre espace à cette courte nouvelle. Je l'ai pas relu, par exemple. Je me suis souvenue de ces éléments comme quelque chose de très dynamique, de très, comme un épisode, finalement, d'une série. Je crois que j'ai été très nourrie aussi par les séries. Et c'était quelque chose qui n'existait pas à ce point-là, à l'époque de mon premier roman. Et ça m'a donné, sans doute, cette énergie. Notre vie dans les forêts est, j'espère, un roman très énergique, très sombre sûrement, mais avec une énergie, une vitesse, voilà, que je recherchais pour écrire ce livre, et qui est aussi sûrement nourri par les séries.
Justement, cette vitesse pour écrire, on la sent, mais elle est volontaire. C'est un livre qu'écrit cette femme, dénommée Marie, qui a choisi pour vivre dans les forêts et se rebeller le nom de Viviane, comme l'a fait Viviane, oui. Mais qui écrit sans se relire, dans l'urgence. Elle sait que sa vie touche à son terme, elle veut témoigner, mais c'est une écriture avec tous ses balbutiements presque, ses fautes, ses erreurs, elle ne sait plus comment s'écrivent certains mots. Oui. Ça a été compliqué d'une certaine manière, de choisir cette écriture, parce que c'est évidemment pas le premier jet que vous avez publié et que nous lisons là. C'est donc une écriture faussement jetée à la hâte sur le papier.
Oui. C'est un testament, en fait. Elle part en morceaux, littéralement, puisqu'il lui manque un œil, il lui manque des organes. On s'aperçoit très rapidement que c'est une histoire de clone, en fait, et que cette personne endormie qui lui ressemble est son clone, mais on ne sait plus qui est le clone de qui. Enfin, à la fin, on le comprend. Elle est dans l'urgence parce qu'elle part littéralement en morceaux, elle ne fonctionne plus, elle est cachée dans la forêt avec d'autres résistants qui veulent échapper à ce système-là, et donc elle écrit très vite. C'est mon éditeur Paul Ochakowski-Laurence qui m'a fait remarquer que le livre commençait là où se terminait mon premier roman Truisme, c'est-à-dire dans la forêt. Ce sont toutes les deux des réfugiés dans la forêt, et c'est dans la forêt qu'il y a peut-être une possibilité d'échapper ou de se replier pour essayer de réfléchir un peu à ce qui s'est passé, tout simplement. Et donc, d'essayer de l'écrire. Elle l'écrit vite, dans des conditions difficiles, à la main, bien entendu. C'était extrêmement drôle, en fait, à écrire, de me donner ces sortes de limites-là. Elle n'a absolument pas le temps de vérifier dans un dictionnaire comment s'écrit tel ou tel mot. Elle passe un petit peu du coq à l'âne, elle répète... J'en étais où? Bref, enfin, c'est un monologue. C'était très dynamique à écrire.
Alors, ce livre s'appelle « Notre vie dans les forêts ». Vous venez de le dire, Marie Dariussec, les forêts, pour vous, ça reste le dernier endroit où l'humanité peut se réfugier, se reconstruire, se retrouver, comme si c'était quelque chose à préserver, à sauver. Bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, la déforestation gagne partout, que c'est dramatique aussi pour le climat. Et dans le livre, Marie, Viviane, qui décrit ce point de rupture où est arrivée notre humanité, elle dit « ce sont les choses contre lesquelles peut-être vous luttez ». Elle l'espère. Alors, c'est un livre très sombre, vous venez de le dire. C'est un livre plein d'humour. C'est aussi un livre très politique.
Oui, c'est un livre politique, mais finalement, j'ai l'impression que j'écris toujours des livres politiques qui sont portés par des voix comme ça, un petit peu candides, souvent des femmes, qui n'ont pas la tête très politique, mais qui ont été prises dans une histoire trop grande pour elles, mais parce qu'elle est trop grande pour nous tous, en fait, et qui se débattent pour essayer de comprendre quelque chose avec leurs outils. Voilà. Et c'est une femme qui essaie de comprendre ce qui lui arrive. Et c'est très souvent ça, un roman, tout simplement. Madame Bovary aussi, elle essayait de comprendre ce qui lui arrivait. Et j'aime beaucoup ces personnages qui ne lâchent pas l'affaire, enfin qui veulent réussir à donner un sens à leur histoire, même si cette histoire est faite de morceaux et part, effectivement. Elle est tenue aussi par un fil narratif très fort qui est l'amour. Elle tombe heureusement amoureuse d'un homme qui a peut-être pas plus compris qu'elle, mais qui a vraiment pas envie de se laisser faire.
Qui s'est révoltée avant elle, voilà.
Et puis c'est une ancienne psychologue, cette femme, ce qui m'a permis aussi d'inventer certains récits de cure, où là j'espère effectivement qu'on s'amuse un peu, parce que dans cette société de surveillance dans laquelle elle se trouvait, les psychologues étaient aussi des agents de la surveillance et des agents de l'adaptation. Hein. Il y a tout un pan de la psychothérapie moderne qui malheureusement cherche à adapter les gens à l'inacceptable, plutôt qu'à dire ce monde est invivable en fait. Donc j'essaie de montrer aussi, de raconter certaines cures qu'elle a menées en y mettant toute la bonne foi et la bonne volonté qu'elle a, mais qui étaient parfois des échecs.
Mais vous-même, Marie Dariussec, vous êtes devenue une psychothérapeute, vous exercez, et on ne peut pas s'empêcher de penser de temps en temps, en lisant les pages de ce livre, qu'il y a aussi, non seulement cette Marie-Viviane vous ressemble, mais dans la description de ses moments de cure avec ses patients, elle parle par exemple de l'ennui aussi, du fait qu'il y a des moments où le psy, son esprit s'évade, et le aide à faire passer ça. Il y a eu aussi pour vous ce moment de plaisir à raconter, à dédramatiser aussi un peu ce qu'est le rapport patient-thérapeute.
Oui, d'autant plus que les cas que j'imagine sont quand même des cas extrêmes, parce que c'est une psychothérapeute de l'adaptation post-traumatique. Mais il faut voir les traumatismes qu'elle a à résoudre, j'ai envie de dire. On les résout pas, évidemment.
Ceux d'aujourd'hui, ceux d'après les attentats.
Alors, il y a toute la thérapeutique post-attentat, et je crois qu'on est en train de tâtonner aussi. Hein. Mais elle, par exemple, elle a traité une survivante d'un crash aérien, une unique survivante. Et c'est à la fois un échec et en même temps, il y a dans ce trajet, dans cette chute de cet avion en flammes, je crois aussi le trajet de tout le monde qui est décrit dans le livre, en fait. C'est aussi un roman dans le roman, cette survivante-là. Qu'est-ce qu'on peut faire face à des désastres pareils? Et alors, c'est aussi un monde où on propose de cloner les gens, de les réparer de cette façon-là. Mais ça, bon, c'est cauchemardesque.
Alors, vous faites allusion justement à ces pages où on découvre aussi le métier de cette Marie, psychothérapeute, qui doit réadapter les gens à une vie à laquelle on ne peut pas s'adapter. On écoute la lecture d'une page de votre livre.
Mon métier, la façon dont on m'a formée, c'était de rendre possible pour les gens les traumatismes qu'ils ont vécus. Je ne sais pas le dire autrement. Même le mot traumatisme, il faudrait en causer. Nous sommes tous passés par des choses horribles, globalement, mais plus ou moins horribles, plus ou moins soudaines, plus ou moins inattendues. Le plus difficile à comprendre, à accepter, à gérer, pour un cerveau humain, c'est l'absence de transition. Pour un robot, ça ne pose aucun problème. Ils sont même agencés comme ça. Mais pour un humain qui amène son petit à l'école, achète un croissant en vitesse et traverse au bonhomme vert, et attend parmi les parents et les enfants l'ouverture des portes, sans lâcher la petite main. Et l'instant d'après, il n'a plus que cette main à la main. Le corps du petit est pulvérisé. Je pense à un patient précis. Le cerveau ne peut pas suivre, tout simplement. L'avant et l'après ne sont pas connectés. Ça n'a aucun sens. Et malgré toutes les histoires qu'on pourra se raconter, ça n'en aura jamais. Je faisais partie de ces poules de psy d'urgence qu'on a mis sur tous les gros coups du début du millénaire. Ça, à l'époque. Mais je traitais aussi les accidents banals, la voiture emboutie et le bruit qui perdure dans la tête, le boom, les acouphènes, les phobies qui s'installent, la routine du traumatisme. Jusqu'à ce cliqueur qu'on m'adresse pour un simple stress au travail. Il avait vécu une échauffourée, je n'appelle pas ça un attentat. Quand il était gamin, au lycée, ils avaient été confinés pendant qu'un assaillant déambulait avec une machette. J'ai des collègues qui traitent les assaillants. Ça m'aurait intéressé, je crois. Bon, mon patient remettait lui-même à sa juste place cet incident qui n'avait pas plus coupé sa vie en deux que le jour où sa mère lui avait annoncé que son père n'était pas son père. Il y a une routine de la vie psychique humaine. Allez parler de ça à un robot. Il vous fera son petit sourire concerné. Il associera triste et perturbant, mais aussi banal, s'il est bien programmé.
Marie Dariussec, dans cet extrait, on entend l'allusion au cliqueur, qui est donc le patient pour lequel Marie va commencer à éprouver des sentiments et qui lui permettra de s'évader. Ce cliqueur, c'est donc un nouveau métier. C'est un métier très intéressant parce qu'en fait, ça montre le moment où les robots ont encore besoin des humains. Mmh. Ils ont besoin des humains pour être programmés. Et le cliqueur est celui qui va permettre au robot d'associer un mot comme mort, deuil, à tristesse, besoin d'aide. Et donc, on est nous-mêmes aujourd'hui dans une société où on nous parle de l'arrivée des robots, où les hommes peuvent encore dire non à certaines choses. Non, nous n'allons pas programmer des robots à comprendre nos émotions. Nos émotions sont peut-être comme les forêts, le dernier territoire où nous sommes libres.
Oui, ou les métaphores, par exemple, associer le bleu à la mélancolie, au bleu à l'âme, au blues. Actuellement, les cliqueurs, c'est un métier qui existe et ils programment les robots. Voilà, ils associent pour farcir la tête des robots avec nos associations. Ça a l'air infini, mais apparemment, ça pourrait. J'ai lu sur Internet, comme tous les romanciers aujourd'hui, et tout le monde, des articles assez sérieux là-dessus, et ça pourrait prendre une cinquantaine d'années, en fait. La question, au bout du compte, c'est pas tellement qu'ils arrivent à associer et à faire des milliers d'associations comme nous, c'est est-ce que ça finirait par développer un inconscient? Parce qu'on s'étonne toujours de la naissance de la vie, ou de la naissance de la conscience. Mais la naissance de l'inconscient, de cette chose que nous-mêmes, nous ne maîtrisons absolument pas et que nous pouvons passer notre vie à explorer, est-ce que les robots auraient un inconscient? Et je pense que s'ils en ont un, là, on est mal. Ou peut-être que ça les autodétruirait aussi, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup pensé en écrivant ce livre à cette scène magique de 2001, Odyssée de l'espace, où l'astronaute débranche petit à petit le robot Hal en lui enlevant ces grosses cassettes-là à l'époque. Et Hal a peur pour la première fois de sa vie. Il ressent cette émotion humaine et il veut pas qu'on le débranche. Et c'est une scène fondamentale pour tous ces récits-là, en fait. Et dans le monde où est Emma, Marie, Viviane, on ne sait plus qui est robot, qui ne l'est pas, sauf à un moment où effectivement, tout simplement, en gazant une des cliniques où on garde les clones, là, il y a des humains qui tombent et les robots restent debout parce qu'ils ne sont pas gazés. J'avais pas pensé à cet épisode-là, il est venu comme ça, dans la logique du récit. J'étais prise dans cette urgence à écrire ce livre et tout s'agençait avec une parfaite logique de cauchemar, mais aussi assez excitante.
Thank you.
Marie Dariussec, votre personnage de Marie Viviane dans votre livre Notre vie dans les forêts a donc un clone qui s'appelle Marie comme elle, qui lui ressemble trait pour trait, mais sauf qu'il lui ressemble à un moment de sa vie où elle était jeune, belle, entière, elle avait tous ses organes. Simplement, Marie est inconsciente, elle est droguée par l'État dans cette sorte de réserve de clone. C'est le moment où finalement votre personnage commence à rejeter le système parce que elle n'est pas obligée d'aller voir ce clone. Or, elle y va depuis toujours. Elle fait un long trajet, elle s'assied à côté d'elle, elle lui parle alors que ça n'est pas très recommandé par l'organisme qui gère ces clones. Et en fait, en lisant ces pages très touchantes où votre personnage commence à se poser des tas de questions sur la société dans laquelle elle vit, je me disais qu'au fond, elle était l'écrivain assise au chevet de ces personnages. Et en fait, vous, Marie Dariussec, écrivain, vous passez votre vie à vous créer des clones dans vos livres parce que ces personnages, ils ont vos émotions, pas toutes, mais certaines. Ils ont un peu vos traits, souvent. Vous écrivez en permanence sur quelque chose qui vous travaille en tant qu'écrivain.
Oui, c'est certainement une bonne intuition. C'est aussi une belle au bois dormant et je m'approche d'elle et je la réveille, c'est vrai. Et la plupart de mes personnages féminins et masculins aussi d'ailleurs, c'est tout simplement moi si je n'avais pas écrit. Alors l'écriture, c'est une immense partie de ma vie, mais il y a une espèce de d'autre chose quand même. Un autre embranchement que j'aurais pu prendre peut-être. Et alors, tous ces embranchements font des possibles. Et effectivement, je réveille ces clones et je leur fais faire des choses, plus ou moins agréables sûrement. Il y a aussi, je crois, cette fascination de regarder quelqu'un dormir et de se demander est-ce qu'elle rêve, cette personne, elle est dans quel espace. C'était extrêmement inspirant, cette situation toute simple, de faire ce que mon héroïne, c'est un peu une anti-héroïne, mais que mon personnage fasse ce très long trajet, plein d'embûches, jusqu'à cette clinique où les gens ne sont pas du tout incités à aller, effectivement, et aille au chevet de ce clone endormi, et se dise quand même, ça serait peut-être bien de la réveiller et voir ce qui se passe. Alors, il y a tout un réseau de résistance qui, en fait, kidnappe les clones et les réveille. Et c'est très décevant, parce que comme ils n'ont rien vécu, ces gens endormis, il faut tout leur apprendre, à commencer par la marche et la parole. Ce sont des espèces de bébés adultes, c'est assez perturbant. Et puis une fois qu'ils sont un peu au point, ils pensent qu'à s'amuser, ils pensent pas du tout à la lutte politique ou collective. Et ils mettent le désordre en fait, ils mettent le désordre jusque dans les réseaux de résistance qui sont tellement austères, tellement organisés. J'avais aussi envie de montrer que ces gens réfugiés dans la forêt ne sont pas des saints. En fait, eux-mêmes ont des luttes terribles entre eux et eux-mêmes ont un usage des clones qui est vraiment par-delà bien et mal pour le coup. Et
d'ailleurs, en lisant ce dernier livre, Marie Dariussec, comme lorsque j'avais lu Le Pays, je me suis dit que c'était probablement le livre dans lequel vous vous étiez livré le plus. Vous êtes évidemment dans chacun de vos livres. Mais celui-ci, il doit représenter beaucoup de vos angoisses ou de vos sujets d'étonnement ou de rire. On vous semble vraiment très présente à chaque page. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en terminant, mettant le mot fin, que vous aviez été encore plus dans ce livre? Est-ce que c'est aussi la somme de vos angoisses du moment?
Oui, c'est-à-dire je suis comme beaucoup de gens, je crois, je ne sais pas ce que je pense du monde. Je ne sais plus. Alors, c'était pas mieux avant, mais c'était peut-être un peu plus simple. Et là, on est dans une période de changement telle que je ne sais plus, que j'ai besoin d'écrire des histoires comme ça, un peu exagérées, mais j'aime bien ce mot, pour essayer de comprendre quelque chose. Parce que je suis pas non plus persuadée que ça va être affreux. Enfin, par exemple, le père de mes enfants est un chercheur sérieux. C'est pas du tout le genre à verser dans l'irrationnel ou, mais il dit effectivement, avec ses collègues, ils sont d'accord pour dire que on en a pour à peu près 400 ans au rythme où on consomme la planète. Et que, il y a peut-être eu des civilisations disparues, c'est tout à fait possible, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, mais qu'elles se sont consumées elles-mêmes et qu'elles n'ont pas eu le temps de nous contacter. Voilà. Qu'il y a un modèle, comme ça, de développement de l'intelligence qui bouffe la planète sur laquelle elle est. C'est probablement ce qui est en train de nous arriver. Et 400 ans, c'est vraiment très très court. En même temps, peut-être qu'on va s'amuser dans ces 400 ans aussi, peut-être que c'est très excitant. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à être à ce point pessimiste et catastrophiste. Peut-être qu'on va se réveiller. C'est aussi un livre sur l'éveil. C'est aussi un livre qui propose un éveil qui est vraiment par-delà les modèles politiques qu'on nous propose aujourd'hui en France. Et un éveil qui serait quand même de l'ordre de l'accueil, de la générosité. Il faut arrêter de faire des murs, là. C'est la catastrophe assurée, les murs. Donc, je suis seulement écrivaine. Je ne sais pas. Mais je sais raconter des histoires. Et je pense que les histoires sont d'excellents vecteurs pour réfléchir ensemble. C'est tout ce que je sais.
Oui, alors vous parlez d'éveil, il y a cet éveil sur la générosité, l'accueil, il y a aussi cet éveil nécessaire sur l'écologie, on sait que vous êtes très concernée, comme la plupart d'entre nous. Il y a des pages de votre livre qui le décrivent très précisément, cet état du monde à partir duquel on ne sait plus trop si on tiendra le choc.
Peu à peu, avec le sevrage, on ressent les choses plus vivement, parfois c'est même de l'ordre de la douleur. Les scènes d'attentats, avec les organes et le sang, ça devient insupportable. On est obligé de fermer les yeux. Les souvenirs traumatiques reviennent plus fort aussi, les rêves, mais aussi les bonnes choses. Le goût, par exemple. On devient plus exigeant, on détecte mieux les fruits usinés, on repère une fraise qui a vraiment connu le sol. Et puis les autres, les gens aimables. Rire aux blagues du patient cliqueur, tenir son regard en silence. Cesser de boire de l'eau, je veux dire, l'eau qu'on nous distribue, fait un peu le même effet, à long terme. Que se déconnecter. J'imagine que vous avez tous essayé de vous déconnecter, au moins quelques minutes, comme faisait malhabilement ma pauvre mère à l'époque où la plupart des appareils nous restaient tout de même extérieurs. Mais on peut se déconnecter de l'intérieur aussi. Il faut trouver sa chambre intérieure. Ne penser à rien. Rien pendant quelques minutes fait déjà vaciller la connexion. Ne répondre à aucune sollicitation, n'effectuer aucune mise à jour, ne processer aucune information. Ne réagir à aucun manque, même quand ça devient insupportable, même quand l'ennui se mue en une douleur physique. Passer ce cap. Je ne dis pas que ce soit facile. Dézoner le cerveau et repérer en soi la source du réseau. On ne peut pas, hélas, me retirer mon boîtier avec les moyens rudimentaires de chirurgie que nous avons dans la forêt. Je ne vais pas me laisser trépaner sans un minimum de précautions. Bref, le boîtier est toujours dans ma tête. Robot comme les autres.
Marie Dariussec, vous décrivez une humanité à qui on a greffé des boîtiers électroniques dans le cerveau. Mais en fait, aujourd'hui, nos boîtiers électroniques, on les tient dans la main, on les a sous les yeux, on est connecté en permanence. Ce livre, je le disais au début de notre entretien, il est très politique, il est aussi une sorte d'appel à l'éveil de la conscience humaine, citoyenne. Il faut apprendre à retrouver le silence, le bruit du vent, sans avoir toujours les yeux fixés sur un écran. C'est un livre très politique.
Oui, oui. En même temps, on est aussi gavé de tous ces conseils-là, comme vous savez. Se déconnecter, il y a... répéter ça comme un mantra... fait partie aussi de la surveillance générale. Enfin, on nous donne l'ordre de nous déconnecter, c'est très paradoxal. Donc il faut inventer une brèche. Et je crois que c'est ça qu'elle essaie de faire. J'ai toujours travaillé là-dessus. Elle est aussi farcie de clichés. Ne penser à rien, trouver sa chambre intérieure, c'est des clichés de psychologie New Wave. Mais en même temps, ils sont pas entièrement faux, comme toujours les clichés. Et donc il faudrait arrêter de dire il faut déjà. Mais elle est dans un récit d'urgence. Elle est dans un état d'urgence et la forêt, cet endroit où, ma foi, les drones ont du mal à percer la canopée, où il y a moins de réseau, il y a moins de connexions, c'est des choses que j'ai vraiment vécues pour le coup en écrivant mon roman qui s'appelle « Il faut beaucoup aimer les hommes » et toute la dernière partie est dans une forêt primaire en Afrique. Par moments, on avait le réseau quand même. C'était complètement fascinant. Tout le monde s'arrêtait, ça cliquait, ça vibrait dans nos poches et on regardait nos textos. C'est ni bien ni mal, je veux dire, c'est aussi extraordinaire de pouvoir communiquer absolument partout, de pouvoir avoir des nouvelles des gens qu'on aime. Je suis pas du tout passéiste là-dessus. En particulier, Internet a révolutionné mon travail d'écrivain. On peut aller voir à quoi ressemble tel paysage sans avoir à prendre l'avion, même si, bien entendu, c'est pas la même expérience. Ça suffit pour écrire des livres aussi, d'une certaine façon. Enfin, on a des renseignements qu'on n'avait pas il y a... Moi, j'ai vécu l'époque où il fallait aller en bibliothèque pour savoir, par exemple, à quoi ressemblait la langue yoruba. Maintenant, non, il suffit d'aller voir un film sur YouTube. Tout a changé là-dessus. Donc, c'est pas mal. C'est pas désolant non plus. Mais il faut trouver des brèches, voilà. Et je pense aussi que ces brèches passent par les animaux, par exemple. Passent par un nouveau regard sur ces êtres qui ont des yeux, comme nous. Ils ont quelque chose à nous apprendre. On les a méprisés très, très, très longtemps. Je me rappelle quand j'étais étudiante à Normale Sup et que je disais qu'un de mes combats, c'était de sauver les baleines. Tout le monde se moquait de moi. Parce qu'à l'époque, les combats étaient exclusivement politiques humains. Mais maintenant, on a compris qu'on sera pas humain sans les animaux. Ça fait maintenant très longtemps qu'on laisse plus ça à Brigitte Bardot, pour le dire vite, voilà. Et qu'on a une réflexion sérieuse sur ce que l'humain a à faire avec l'animal. Il y a là-dedans beaucoup de brèches que nous sommes en train de seulement commencer à explorer et qui peuvent vraiment changer le monde et qui peuvent nous ralentir de la bonne façon.
C'est aussi un grand livre, un beau livre sur la peur. Comment vivre dans la peur? Ce livre, il évoque ce moment que nous avons vécu, là, ces dernières années, où tout explose, où les attentats sont là, où on peut mourir, partir le matin sans savoir si on rentrera le soir. Et tous ces gens que vous décrivez dans votre livre, ils doivent vivre avec la peur, mais pas qu'avec la peur. Vous avez employé l'expression, Marie Darrieussecq, trouver des brèches. Il faut aussi trouver des brèches dans la peur. L'écriture est sans doute quelque chose, et la lecture donc, qui peut nous aider à franchir ce pas.
Oui, l'art en général, et l'art sous toutes ses formes aujourd'hui, l'art aussi, qui a besoin de supports électroniques. Enfin voilà, je n'ai rien contre. J'ai pas de solution. Je sens que les questions que pose ce livre, je ne peux pas y répondre. Moi, mon travail, c'est de proposer une forme à ces questions, d'inviter les gens à plus d'intelligence. Vraiment, j'essaye de proposer des livres qui tiennent les gens en éveil. Et je pense d'ailleurs que c'est un livre assez complexe, qui demande, comme tous mes livres, un certain effort d'attention. C'est une des choses d'ailleurs très précieuses et rares aujourd'hui. Ça, c'est peut-être le seul vrai problème que posent toutes ces connexions, c'est l'attention, la durée de l'attention, effectivement. Et le livre demande une durée d'attention, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui savent à quel point c'est précieux, ça. Je le vois dans la jeune génération aussi. Des modes de lecture très différents aussi. J'engueule régulièrement mon fils de 16 ans parce qu'il est penché sur son téléphone, sauf que la plupart du temps, il lit sur son téléphone, y compris des romans. Il faut s'adapter à tout ça. Je suis née en 1969, j'ai cette chance énorme pour une écrivaine d'avoir affaire à un monde qui s'est absolument métamorphosé. En dehors des périodes de guerre effectives qu'ont vécu des gens comme Orwell ou Huxley, etc., il y a eu une rupture radicale, absolument radicale et fascinante et extrêmement riche. Alors je mourrais sans doute sans jamais trouver la solution, mais j'aurais vécu un monde prodigieux, c'est-à-dire les romans de science-fiction que je lisais adolescente n'avaient pas prévu le dixième de ce qui se passe. Ils en avaient prévu un peu quand même. Je ne regrette rien, j'ai envie de dire ça, malgré tout.
Et notamment, ces romans avaient prévu, comme le vôtre, cette tentation de la vie éternelle. Parce qu'au fond, les clones, ça sert à ça, ça sert à prolonger la vie des super riches. Parce que tout le monde ne peut pas se payer les greffes d'organes. C'est quelque chose qui vous semble intéressant de creuser dans cette tentation de prolonger la vie. On se dit, prolonger la vie, quelle vie? C'est un peu étrange.
C'est super riche, c'est d'une immoralité extrêmement dangereuse. Ça rend les gens fous furieux. Ça rend les 99% d'autres fous furieux. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est aussi un excellent terreau pour les fascismes les plus sanglants. Blade Runner, ces personnages formidables des réplicants. Au départ, c'est un roman de Philip K. Dick, et puis ça a donné ce film extraordinaire de Ridley Scott, Blade Runner. J'ai dû le voir 10 fois. Les réplicants, c'est des robots clones. Enfin, ils ont un peu de tout. Ils nous ressemblent énormément. Ce sont des robots extrêmement réussis. Sauf qu'ils ont 4 ans de vie. Ils sont programmés pour mourir parce qu'ils sont trop dangereux. Et ce qui est très beau dans le film de Ridley Scott, et que K. Dick a à peine effleuré, en fait, c'est cette rapidité de la vie humaine, en fait. 4 ans ou 100 ans, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut se dépêcher. Il faut peut-être se dépêcher de prendre son temps aussi, bizarrement. Mais voilà, j'aime beaucoup, moi, ce format qu'on a là. Par exemple, je sais que j'ai devant moi, j'ai 48 ans, j'ai un nombre limité de livres devant moi, de toute façon. Je ne pourrais pas tout écrire, je ne pourrais pas écrire tout ce que j'ai dans la tête. Mais c'est très bien, ça demande des choix, ça demande de respirer, ça nous organise aussi. Enfin, on serait complètement perdu dans l'espace, sinon. Donc, le problème des super riches, c'est qu'ils n'ont pas de limites. Et ça, ça les rend à la fois extrêmement dangereux, d'un égoïsme. Moi, je peux comprendre comment, pendant la Terreur en 1793, on a coupé la tête des super-riches de l'époque. Bien entendu, on va vers ça. Malheureusement, ils sont en train de s'organiser d'une façon où ils seront complètement inatteignables. Donc là, il y a un vrai, vrai danger, ouais. Mais j'ai pas la solution.
Et quand Viviane, donc elle est devenue Viviane dans les forêts, termine son manuscrit en disant... lisez ceci comme une prière. Ça serait quoi la vôtre de prière, Marie Darrieussecq ?
Alors moi, je suis athée. Je pense que non seulement on n'a pas besoin de Dieu, mais qu'en plus, s'il existait, ça serait juste un gros dégueulasse, vu ce qui se passe. Donc, il faut prier autrement, mais c'est tout à fait possible. La mer et les forêts, c'est ce qui me sauve, moi. C'est ce qui me sauve vraiment. Quand je suis devant la mer, je me rappelle que je suis un être humain posé sur la terre. Quand je suis dans une forêt, je me souviens qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres créatures, et en particulier les arbres, qu'on est sur cette planète. C'est très important. Dans les villes, ce qu'on perd, c'est les étoiles. On ne voit pas les étoiles, on ne se souvient pas qu'on est sur une planète. Se rappeler cette évidence qu'on est debout, cambré, humain, sur une planète, et qu'on est ces animaux-là, ça permet de réfléchir un petit peu différemment que la somme des ordres qui nous sont donnés toute la journée. J'écris à partir de ces évidences aussi.
Merci infiniment, Marie Darrieussecq, d'être venue nous voir aujourd'hui. Je rappelle que votre dernier roman, Notre vie dans les forêts, vient de paraître aux éditions POL et qu'il faut le lire de toute urgence. Merci à vous, Marie. Au revoir.
Merci beaucoup.
C'est fini pour l'Humeur Vagabonde de ce samedi, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. J'aurai le plaisir de recevoir Marie Richeux qui publie un livre et qui est également notre camarade de France Culture. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.